Bonjour à tous, chers auditeurs de Radio Clapas. Deuxième partie de notre émission sur la danse avec Jean-Paul Montanari. On parlait de programmation, Jean-Paul, et c'est vrai que la programmation d'un festival m'a toujours fascinée. Et vous disiez à une époque à Agnès Izrine, diriger un festival, c'est choisir. Vous disiez aussi, c'est l'inconscient, le vôtre, celui des artistes qui dessinent la programmation et finissent par en faire cette alchimie. Alors, comment fait-on et pourquoi choisir ?
Ça dépend des festivals, c'est jamais pareil. C'est jamais pareil parce que à la fois, je fais toujours le même festival, c'est-à-dire les artistes reviennent régulièrement, mais ça, c'est le secret de...
Puis il y a votre fidélité,
si
quand même.
Si j'ai un conseil à donner à d'éventuels jeunes collègues,
oui.
C'est qu'on ne forme un public que par la répétition, exactement comme les mathématiques et la grammaire.
C'est vrai, vous avez raison.
Donc c'est par la répétition et la venue régulière des artistes importants qu'on finit par comprendre leur univers et qu'on commence à comprendre quelque chose à la danse. Donc à la fois, c'est tout le temps les mêmes, si j'ose dire, donc c'est toujours le même festival, et en même temps, c'est jamais pareil, puisque la problématique est jamais pareille.
Et l'évolution de leur travail.
D'abord, par exemple, l'été dernier, alors qu'on retrouvait encore une fois Anne-Thérèse de Kerschmacker et un certain nombre d'autres, curieusement, les œuvres qui ont été présentées étaient extraordinairement importantes. Et donc, le même festival avec les mêmes artistes, mais avec d'autres œuvres, n'aurait pas été aussi bouleversant. Or, ce festival-là a été, de mon point de vue, absolument extraordinaire. Et le public, s'y est pas trompé, qui a envahi les salles d'une manière extraordinairement enthousiaste. Bon, l'été prochain, on voit bien, c'est un numéro 40... Donc, on ne peut pas ne pas se poser la question à la fois du Dent qui passe, bien que ce ne soit pas un festival nostalgique, de retrouver les mêmes artistes, ou en tous les cas des artistes que je suis et qui nous suivent et que le public suit depuis disons, une grosse dizaine d'années. Mais en même temps, on ne va jamais les retrouver au même endroit. C'est-à-dire, soit ce sera des créations, des nouvelles pièces du même artiste, soit ce sera des pièces anciennes que ces artistes-là reprennent, ou sans la présence de ces artistes. Enfin bon, en tous les cas, il y aura tout un jeu, d'une certaine manière mémorielle, entre un certain nombre d'artistes invités et leurs œuvres. Et donc il y a tout un jeu qui fait que ce sera de nouveau un festival différent de celui de l'année dernière.
Mais c'est vrai, mais...
En même temps, c'est un peu normal, c'est-à-dire qu'on ne reste pas si longtemps à ce poste-là sans être un jongleur. C'est-à-dire que je jongle avec tout ça.
Beaucoup de visionnaire,
vous croyez ?
Oui.
Non, tant mieux.
Oui. Il y a quelque chose d'une alchimie qu'on ne maîtrise pas. On parlait des spectateurs tout à l'heure et du public, et j'ai vu une phrase de vous qui dit, comme si vous adressiez à eux et vous dites, regardez comme vous êtes capable d'aller jusque-là.
Ah oui, ça j'en suis sûr.
Voilà.
Ah oui, non, ça je suis sûr qu'on ne crée pas...
Donc, oser.
On ne crée pas de grand public si on ne leur propose pas de passer dans la classe supérieure.
Sans plus loin,
arrêt. D'aller plus loin.
Oui, toujours. Alors, il y a donc l'Agora, on l'a parlé, qui est la Cité internationale de la danse, lieu unique en Europe, avec les artistes en résidence, cette pépinière de talent qui vit, comme un cœur qui bat de plus de 300 jours par an. C'est ça. Avec des ateliers de danse, une animation permanente, des studios ouverts pour les rencontres, pour les répétitions. Alors, il y a des fidélités encore cette année, comme David Van Paak, Michel Meret, qu'on a reçu l'an dernier, je crois, Emmanuel Gatt, évidemment, Raymond Hogue, Fabrice Ramalingam, qu'on a reçu aussi. Et puis, il y a les petits nouveaux. Donc, alors, j'ai été assez interpellée, j'avais envie de poser cette question-là, parce que dans la présentation à la presse et à tout le monde, quoi, et au public, de cette saison 19-20, il y a beaucoup, on les fait parler, tous ces résidents, ces artistes en résidence, on les fait beaucoup parler, sur de quelle manière, etc. Et vous n'êtes pas là, vous n'avez rien dit cette année.
C'est bien la première fois que je dis rien, parce que d'habitude, je suis plutôt bavard.
Oui. Mais... Pourquoi leur avoir laissé la place ? Il le fallait, là aussi ?
Ben parce qu'on n'est pas obligé de prendre la parole tout le temps.
Hein.
C'est vrai. Donc, je me réserve un peu l'édition du prochain festival du numéro 40.
Voilà.
Nécessairement une édition où vous allez nécessairement beaucoup m'entendre. La preuve, c'est que je n'étais pas venu à l'antenne de Radio Clapas depuis déjà un grand moment. Donc,
parce qu'on l'avait décidé.
Me voilà de retour, si j'ose dire. Et qu'il ne faut pas non plus ennuyer trop les gens en ayant...
C'est ça.
Voilà.
C'est ça.
Donc laissons parler les artistes, laissons parler aussi les collaborateurs. Je suis environné, entouré d'un certain nombre de gens qui connaissent aussi bien que moi leur travail, que ce soit Gisèle de Puccio à la direction adjointe, mais aussi Anne-Sophie Amotte au secrétariat général, ou Didier Estrade à la direction technique, et plein d'autres à la communication, à la presse, etc., à la comptabilité ou ailleurs, bien que nous soyons une toute petite équipe par rapport au travail.
Mais une équipe
fournit
de passionnés. C'est ça.
Moi, en tous les cas, c'est comme ça que je souhaite travailler. Donc, moi, j'ai pas besoin d'avoir des. Je travaille tout le temps, je suis au courant de tout, je fais plein de choses, je ne fais pas.
Puis vous supportez pas la routine. Vous dites que vous changez les meubles, vous changez les gens de bureau.
Oui.
Vous...
Moi maintenant, mais à une époque, j'ai changé beaucoup.
Oui.
Changer les meubles, c'est tout.
Oui.
C'est une de mes manies. Changer les choses de place, fabriquer des espaces nouveaux. Changer les couleurs. Je suis très attentif aux couleurs, mais que ce soit la couleur de la moquette qui est sous le bureau de l'administratrice, ou la couleur du t-shirt que peut-être l'été prochain vous porterez.
Oui, vous regardez les robes, vous regardez tout ça.
Oui, tout le temps. Je suis très très attentif à tout ça, je pense que ça fait partie de l'ensemble.
Oui.
Vous savez, Montpellier Danse, c'est vraiment à moi, donc il n'y a rien...
J'adore cette phrase. Ouais,
Il n'y a rien qui me soit indifférent de Montpellier Danse, tout. L'affiche, j'y suis pour beaucoup. Les campagnes de communication, c'est moi qui les fais.
Oui.
Les journalistes, oui. C'est encore avec moi que les choses se passent de manière le plus intéressante. Bien sûr, les artistes, bien sûr, le public, mais tout le reste. Je vous dis, jusqu'à la couleur de la moquette.
Oui.
Tout m'intéresse.
On disait hors antenne tout à l'heure, parce que la plaquette était ouverte comme ça sur le bureau, et il y a Patrick Malaviel qui a intitulé « Soyez curieux ». Et on a dit c'est curieux comme titre, parce que « Soyez » déjà, c'était intéressant, mais « Curieux », ça pouvait être « Restez curieux ». Restez curieux. Et je pense que vous êtes pétillant au niveau de la curiosité, comme ça,
bon,
et « Soyez », vous êtes.
Ça s'émousse un tout petit peu, là, par les temps qui courent, peut-être parce que le monde qui nous entoure... nous donne plus envie de nous réfugier je ne sais où, dans une grotte, plutôt que de se produire en public, parce que c'est... Le monde est terrifiant aujourd'hui. Le monde est terrifiant. La montée générale dans le monde de l'extrême droite et de ce genre d'idéologie est effroyable, effrayante. Et puis, non seulement ça, mais en plus, comme sans doute à certaines autres périodes, on en prend l'habitude. C'est-à-dire que peu à peu,
ça, c'est terrible.
Nous descendions dans la rue pour un oui, pour un non.
La banalité du mal.
Mais aujourd'hui, le Brésil et d'autres pays sont dirigés par des personnalités fascistoïdes et que... voilà,
élus par un peuple.
Ben oui, mais Hitler aussi a été élu par un peuple, donc Mussolini aussi. Donc,
et c'est assez...
Et donc c'est effroyable.
Désespérant.
C'est tout simplement effroyable.
J'ai vu le film « J'accuse ».
Oui.
Et j'en suis sortie pétrifiée, sidérée, surtout la fin, quoi, où on voit à quel point la France et l'armée sont dans des silences terribles, quoi. Quand vous parliez de la banalité des choses, oui, de la banalité.
La banalité du mal, enfin, il n'y a pas que nous qui en avons parlé, malheureusement.
Qu'on accepte,
bien sûr.
Quelque part, qui rentre dans notre quotidien.
On ne sait vraiment plus quoi faire pour se battre. Avant, on disait, on va sortir dans la rue, alors on descendait dans la rue. Moi, quand j'étais jeune, j'ai occupé le consulat général d'Espagne, parce qu'on garrottait les militants anarchistes à Madrid. Donc ça, c'était insupportable. Et aujourd'hui, alors d'autres gens descendent dans la rue aujourd'hui, ailleurs, dans d'autres villes. Je pense à Hong Kong, particulièrement aujourd'hui, bien sûr. Mais bon, c'est tellement désespéré qu'on sait déjà la fin, d'une certaine manière. On s'en étonne pas. C'est-à-dire qu'on va apprendre dans quelques heures, dans quelques jours, que tout ça se terminera par un massacre, comme ça c'est déjà terminé en ce qui concerne, en tous les cas, la Chine. Et que, voilà... Il ne se passera rien d'autre que ça. On va l'apprendre à la télé, quoi, à la radio, à la télé, et puis on passera au prochain massacre ou à la prochaine histoire.
Je repensais, parce que j'aime bien, je me souviens de Georges Perec, donc je me souviens, et de cette édition dont on parlait tout à l'heure, Méditerranée, ma mère, et je me disais, est-ce que ça serait possible maintenant de refaire
ça ? De moins en moins.
De
moins en moins. Il y a, vous êtes légèrement prémonitoire. Il y a quelque chose qui ressemble à ça dans la prochaine édition, mais Pas vraiment non plus. On est ailleurs. On n'est pas. Je vous rappelle plus quand pareil. Même que 1992, quand on a fait cette édition-là, nous étions en train de signer les accords d'Oslo.
C'est ça.
Et c'est pour ça que j'ai fait cette édition aussi. C'est pour
on
être,
y croyait.
Voilà. Aujourd'hui, on n'y croit plus du tout. On pense que la guerre se généralisera à peu près partout dans le monde, en tous les cas dans cette partie du monde-là. Mais le numéro 40. Aborde ou évoque cette idée, encore une fois, d'un impossible, peut-être, je ne sais pas.
Oui. On évoquait comme ça les origines, et la question qui me venait, c'est quand on brûle comme ça d'une telle passion, telle que vous venez de nous le décrire, telle qu'on la connaît, que devient finalement la vie personnelle? Parce que vous dites, je n'existe pas, vous disiez, je n'existe pas en dehors du festival, je jette... C'est comme si on jetait son corps dans la bataille. Donc ça devient quoi, la vie ?
Je n'ai pas d'autre vie que celle de Montpellier Danse. Peut-être c'était la condition sine qua non à faire quelque chose d'aussi, finalement, invraisemblable. On arrive au numéro 40. L'été prochain, vous verrez la 40e édition de ce Montpellier Danse. Donc j'aurai consacré plus de la moitié de ma vie à faire fonctionner cette machine en mettant... toute mon énergie vitale, toute mon intelligence, toutes mes passions seront passées dans cette structure qui aujourd'hui et même excède la simple notion d'un festival de 15 jours, puisque entre le bâtiment de l'Agora et ses activités et de ses équipes, de la saison Montpellier Danse, en plus du festival. Donc c'est beaucoup, 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 beaucoup de travail et je ne sais rien faire d'autre, et je ne sais pas quoi faire d'autre, surtout. Ce qui explique que j'aurai 72 ans dans quelques semaines. L'idée de m'éloigner un peu, de commencer à apprendre du chant, etc., c'est saisi de moi il y a environ un an, puisque l'idée de faire le numéro 40... me disait que bon, voilà, on va peut-être s'arrêter là. C'est bien, quelle raison de faire le 41 et le 42? On parlait de sens. Est-ce que ça avait vraiment du sens? Et donc, je me suis mis dans l'idée. Je me suis fait un petit cinéma de quelqu'un qui prendrait sa retraite, qui s'éloignerait de tout ça. Oui. C'était agréable, hein, parce que c'était du repos, bien sûr. C'était une forme de mort. Donc j'ai vite, sous la pression amicale à la fois du public qui m'arrêtait dans la rue pour me dire surtout ne partez pas à la retraite, et surtout sans doute de Philippe Sorel qui m'a vraiment demandé de rester encore un peu, et qui a beaucoup insisté pour ça, et je le remercie. Ben voilà, je reste encore un peu. Donc le 41e est déjà en route.
Alors, on vous a vu parfois avoir comme ça des tentations de partir, de ne pas partir.
Oui.
On vous a vu, moi je me souviens de moments de lassitude comme ça. Et puis c'est votre façon de dire ma régulière lassitude du quotidien. Donc par rapport au désir et au non-désir. Et on voit les vagues de désir et de non-désir, on le voit sur votre visage, où il y a des éditions comme ça.
Je suis quelqu'un qui m'ennuie très vite. C'est-à-dire, tout m'ennuie très vite. Donc j'ai besoin sans arrêt de rénover, de renouveler.
De
Et curieusement, c'est ça qui fait la durée, alors que ça devrait faire la rupture. C'est ça qui fait la durée. C'est parce que je me questionne absolument sans arrêt sur la question, sur cette question du désir. Mais en l'occurrence, du désir de danse. En quoi la danse m'intéresse encore? En quoi la danse, j'en ai encore envie? En quoi la danse dit encore quelque chose du monde? À une époque, j'étais sûr qu'elle disait... autrement, c'est pas un art majeur. Donc à partir du moment où on disait... qu'on est sûr que c'est un art majeur, mais ça, c'est la fréquentation des très très grands. C'est-à-dire que je suis sûr que c'est un art majeur parce que Merce Cunningham, je suis sûr que c'est un art majeur parce que William Forsythe ou Anne-Thérèse de Kerschmacher ou Adna Arin, ça, je suis sûr que c'est un art majeur. Mais aussi parce que ces grands artistes disent quelque chose du monde qui les entoure et quelque chose qui nous bouleverse, qui ne passe pas par des mots, qui passe que par le corps, donc d'une manière un peu énigmatique, comme toujours en ce qui concerne le corps, bien sûr. Et voilà, donc, mais parfois j'ai des doutes. Parfois.
C'est la question que j'allais vous poser. Qu'est-ce qu'on fait de ces doutes?
Ben, on les intègre à la pensée. Et donc, ça nous permet aussi, ça permet de montrer d'autres artistes qui ont eux aussi des doutes sur cette question du mouvement et sur cette question de la danse. Donc, qui disent, cette danse telle qu'elle est pratiquée depuis un certain temps, ce qu'on a appelé abusivement la danse contemporaine, ne correspond plus aujourd'hui à notre description du monde, à notre perception du monde, et donc on fait autrement. Alors on fait autrement quoi ? Eh bien, par exemple, ce qu'on a appelé la non-danse, c'est-à-dire qu'on ne bouge plus. Est-ce que quand on ne bouge plus, c'est encore un reflet du monde ? Ben, bien sûr que oui, mais c'est un autre reflet, un reflet que moi j'ai trouvé, à propos de cette question de la non-danse en tous les cas, que je trouvais mortifère, par exemple, hein, parce qu'évidemment... la danse qui bouge, c'est-à-dire que, allez, une danse à la Trisha Brown, par exemple, est une danse complètement jubilatoire, complètement amusante, complètement vivante, et surtout extraordinairement vivante. La danse, c'est la vie, c'est quelque chose qui bouge tout le temps, et c'est le contraire de la mort, justement. Alors que la non-danse, justement, qui venait... C'est la génération qui a suivi l'apparition de l'épidémie de sida, hein, bien sûr. Donc c'était la forme de la mort, l'immobilité, justement.
Une sidération, un peu.
Quelque chose comme ça.
Comme ça. Et au début de notre entretien, on parlait de la finitude, de toute chose. Vous posiez la question à propos de New York, qui était jadis le centre incontournable de la danse contemporaine, oui, pendant longtemps. Oui. Et puis, ça n'a plus jamais été. Vous dites, qu'est-ce qui fait que les lumières s'éteignent ? Les choses se passent ailleurs, c'est la vie, ça passe. Voilà.
Ouais, ça, c'était le festival de l'été dernier, oui, où à propos de la célébration... du centième anniversaire de la naissance de Cunningham, qui restera, à mes yeux en tous les cas, le sommet inatteignable de la danse au XXe siècle, de mon point de vue, et qui aura été à lui tout seul, pas seulement, mais presque, ce qui a fait de New York une des mecs de la danse contemporaine, avec Martha Graham et quelques autres.
Toute cette époque...
Et qu'à une époque, il n'était pas question de s'approcher de la question de la danse contemporaine sans aller à New York. Même quelqu'un comme Dominique Bagué, qui était formé à la danse classique, allait prendre des cours à New York. Tout le monde. Angelin Prel-Jocage, qui est aussi de formation classique et qui, encore aujourd'hui, fait plutôt des œuvres, bien sûr, contemporaines, mais qui se rapporte à une danse plutôt écrite, a été travaillé à New York. Les professionnels comme nous... Il fallait, à cette époque-là, en tous les cas au début des années 80, on allait une fois par an à New York, parce que c'est là qu'on découvrait, c'est là qu'on voyait, et que ben, ça ne vient plus de là. Donc voilà, c'est une histoire, mais c'est sans doute ça, l'histoire de l'art. C'est, l'histoire de l'art fonctionne par rupture,
les grands courants,
par bond, voilà.
Les alternances.
Donc, le nouveau roman, ça naît, et puis ça s'arrête, et puis les cubistes aussi, et puis les impressionnistes aussi, et puis voilà, les grandes écoles d'art en général démarrent, s'arrêtent, reprennent, et c'est jamais au même endroit. Bon, après, le temps passe suffisamment, et on vit suffisamment vieux pour pouvoir, ce qui n'était peut-être pas le cas d'autres générations, pour pouvoir réfléchir à la présence des artistes. Et si j'ai dit à de nombreuses reprises que, et pas seulement New York, mais Tel Aviv ou Bruxelles étaient des capitales aujourd'hui de la création contemporaine, de la création en danse en tous les cas, c'est que dans ces villes-là vivent Oana Arin et Anne-Theresa de Kirchmacker. Et c'est autour de ces immenses artistes, que... une dynamique se crée et fait de cette ville une capitale. Montpellier est sans doute une capitale de la danse, grâce à Dominique Bagué, grâce à Mathilde Monnier, grâce à Christian Rizzo aujourd'hui, sans doute un peu grâce à moi aussi.
Oui.
Oui, sans doute. Voilà. Et que ça tient aussi aux personnes, c'est-à-dire que il y a des villes qui sont à des moments des points centraux pour tel ou tel art, et puis qui, à la disparition des artistes, ben s'étiole, et puis ça passe à une autre ville, ça passe à un autre endroit. Mais je crois que c'est la vie de l'art, et c'est pas triste.
C'est l'histoire de la vie.
Oui, c'est l'histoire de l'art, c'est l'histoire de la vie. Ouais.
Alors bon, Montpellier Danse a fait l'histoire de la danse, grâce à vous, et on l'a dit... Dominique Bagué et Georges Frêche et autres. Alors, on doit terminer pratiquement cet entretien, cette deuxième partie. Et j'avais envie de vous parler du public et de vous. Vous dites, un de mes soucis majeurs aura été de ne pas lâcher la main du public tout en gardant une haute exigence artistique. Mmh. Puis vous dites aussi, je suis juste un chercheur d'or. Je ne fais que tamiser et essayer de trouver ce qui reste de plus brillant pour l'offrir au public. Et parfois, je me disais, mais est-ce qu'il a des limites, Jean-Paul Montanari ? Et Et je pense que vous n'en avez pas.
Non, ce n'est pas de limite. Non, non, c'est sincèrement...
Mais le public non plus.
Non plus, donc c'est pour ça. Mais je sais qu'il est là. Donc, bien sûr que je l'ai amené dans des situations absolument limites. On se souvient tous, enfin, beaucoup d'entre nous se souviennent de ce moment absolument impossible qui aura été le Kammerkammer que William Forsythe nous aura fait au Quorum, qui était justement un endroit limite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller plus loin que ça, et que je vous ai amené jusque-là. Heureusement, je vous ai ramené aussi de là. Donc je ne vous ai pas laissé là-bas, je vous ai ramené. Mais à quoi ça servirait de faire, de vivre Montpellier Danse si je ne pouvais pas, si je n'avais pas, comment dire, sinon l'autorisation, qui pourrait m'en empêcher? Les journalistes, certainement pas. Les hommes politiques, oui, ils auraient pu m'en empêcher. Mais derrière moi, c'est ça qui est étrange, derrière moi, il y a le public, et par milliers. Et donc les hommes politiques trouvent qu'ils pourraient m'en vouloir si de ces voyages-là, je n'en revenais pas, ou si le public n'en revenait pas. Mais là, le public en revient
vous
de ce voyage. Non,
vous
je ne suis pas seul.
Et le public.
Donc du coup... Les politiques le valident en disant ben oui, vous avez bien fait, vous avez été loin, vous êtes revenu, le public avec, ben tout va bien, alors on continue. Et donc il n'y a jamais eu l'ombre d'une censure de quoi que ce soit sur l'éventuelle difficulté des projets que j'ai présentés, même si je pense que il n'y a rien qu'on ne puisse réellement montrer, sauf quand c'est profondément stupide, et ça, j'ai jamais montré des choses profondément stupides, parce que je sais faire la différence entre une provocation imbécile et une provocation à l'intelligence. C'est pas la même chose.
Non. Oui. Alors, pour conclure, je voulais vous dire que dernièrement, j'ai vu un documentaire sur Christian Boltanski, et je me suis souvenu que Dominique Bagoué avait fait appel à lui en 87 pour la création du Sceau de l'Ange. Et déjà, on voyait à quel point il parlait du caractère éphémère dont on parlait tout à l'heure, de l'œuvre, du créateur, et qu'il fallait les perpétuer après leur disparition. Il fallait que ça continue à vivre. Et Boltanski a consacré toute sa vie à ce phénomène-là, à la disparition, au phénomène de disparition,
oui.
À notre disparition, au travail sur la mémoire et
oui.
L'oubli. Et il dit... il faut redonner vie à des gens disparus, car chaque personne est unique, ce que vous avez fait pour Dominique Bagoué et pour tant d'autres, hein, Merce Cunningham et autres, souvent. Et il dit, on ne les fait pas revivre, mais le fait de dire leur nom, de montrer leur image, leur travail, veut dire qu'il y a eu quelqu'un, il a existé. Et je me suis dit que ça pouvait être une conclusion qui vous ressemble. Comme pour expliquer le sens dont on parlait, on se rejoint là, au niveau du sens, pour toutes ces années de travail autour de la danse et pour perpétuer comme ça les mémoires de Dominique et de tant d'autres qui vous sont chers. Et je suis émue aussi en parlant. En 89, j'ai vu une photo de ce jeune homme que vous étiez. Vous aviez un t-shirt où il était écrit « J'ai envie de bousculer le petit monde de la danse en son ghetto. J'ai envie d'y mettre le monde qui me fait mal, le monde qui me ravit, le monde qui me bouleverse. » Alors, il est devenu quoi, ce jeune homme-là qui écrivait fièrement sur son t-shirt? Qu'est-ce qu'il écrirait aujourd'hui son t-shirt?
Il est juste devenu cardiaque entre-temps. C'est-à-dire que... Le cholestérol a fait son œuvre. Et donc, entre-temps, il est essentiellement devenu cardiaque. Peut-être parce que c'est la partie de moi la plus fragile, qui est mon cœur, sans doute. Oui, c'est ça. Je suis toujours un jeune homme. Je n'ai pas changé, je crois. Je crois que sous cet angle, je n'ai pas changé. Ni la curiosité, ni... Très peu de choses s'est émoussée. C'est quand même dans la littérature que je trouve ma pâture préférée. Mais ça a toujours été ça. C'est pas nouveau.
C'était là.
Non, c'est là depuis toujours. Mmh. C'est là que depuis que je suis tout petit, depuis la Comtesse de Ségur. C'est la littérature qui compte le plus pour moi dans la vie. Hein. Et puis, la danse, c'est de temps en temps. La danse, c'est une pensée sur la littérature. J'en ai fait mes études supérieures et j'en fais ma pâture absolument quotidienne. C'est la seule pratique que j'ai quotidiennement, c'est de lire et d'essayer de découvrir à la fois de nouveaux auteurs et en même temps de prendre ce plaisir à l'écriture, même si aujourd'hui, elle se fait... L'écriture intéressante se fait malheureusement de plus en plus rare. Mais je n'ai pas tellement changé. Qu'est-ce que j'aurais écrit sur le t-shirt Vivons, peut-être. Peut-être vivons, parce que à la fois la vie est terriblement courte, on s'en aperçoit quand on arrive dans les dernières décennies, On voit bien que ça aille. C'est passé assez vite. Hein. C'est passé très assez vite. Oui, ça passe vite. Hein. Ça passe sans amertume, mais ça passe vite. Ça passe plus vite que ce qu'on pense quand on a 20 ans. Et passé les 70, on voit bien que vraiment, c'était pas grand-chose et qu'on a fait beaucoup dans ce pas grand-chose. Là, dans ce petit temps qui nous a été attribué, on a fait le maximum de ce qu'on a pu.
Comme dit Boltanski, continuer à les faire revivre, à faire revivre le nom, les œuvres, pour dire qu'ils ont existé aussi. Le travail sur la mémoire.
Ça a toujours été ça. Donc,
je sais que ça a toujours été ça
pas,
pour
pas
vous
seulement,
aussi.
Pas seulement, mais aussi ça, mais on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. Je ne serai pas... En tous les cas, je ne suis pas dans l'immédiateté absolue et le catalogue, c'est-à-dire montrer à tout prix, tout le temps, que des nouveautés. Et donc, c'est-à-dire ce qui est la manière dont le marché fonctionne, c'est-à-dire met sur le marché, mais en circulation sans arrêt, des tas de produits qui ne sont pas toujours des œuvres. Et c'est aussi valable pour la danse. Il y a des tas de produits qui apparaissent absolument tous les jours qui ne sont pas nécessairement des œuvres, qui sont juste des produits. Donc, c'est aussi ça, le côté finaux de notre part à nous, de ne pas se laisser prendre à cette question, et au contraire, de détecter les œuvres et de montrer les œuvres. Donc nécessairement, quand vous avez trouvé, quand ça impose à vous des créateurs aussi importants que Cunningham ou Forsythe ou Anne-Theresa de Kirchmacher ou Anne Arin, bien sûr que vous y tenez, c'est trop important. D'ailleurs,
et transmettre,
tous ces noms,
c'est un mot
je m'en fous un peu, je crois.
C'est vrai.
Oui, transmettre, c'est pas mon truc.
Et pourtant, vous le faites.
Oui, mais vous ça, c'est pas volontaire. Mais transmettre, comment expliquer ça ? Je pense que chacun a la responsabilité de faire sa propre vie. Donc, si les gens veulent prendre les choses qui sont autour d'eux, ils peuvent. Et s'ils ne prennent pas, c'est qu'ils sont paresseux. Ils sont paresseux, on n'a pas à s'occuper d'eux. Et puis voilà, donc, très bien. Mais moi, je donne tout ce que je peux. Et donc, c'est aux gens qui en ont besoin de s'en emparer. C'est ça, pour moi, la transmission. Mais jamais j'ai le souci. Par exemple, on me dit, je vais finir par partir un jour, quitter la direction de Montpellier Danse. Vous devriez avoir à vos côtés... Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais enfin, je ne comprends pas. Ça, c'est les boîtes industrielles qui font ça pour que le numéro 2 soit suffisamment au courant pour faire marcher la machine. Mais on est dans un milieu qui est un milieu culturel, qui est un milieu artistique. Et là, je serai ou pas remplacé par quelqu'un, ou pas de compétent, mais ça m'est complètement différent.
Ou autrement.
Moi, je ne suis pas Louis XIV, je n'ai rien à léguer à personne. Il y a un conseil d'administration qui est seul juge du fonctionnement de la boutique, le juge démocratique, et qui a, lui, la responsabilité de nommer à mon départ, à ma disparition, parce que peut-être je mourrai dans mon fauteuil de directeur, j'en sais rien, et puis ce ne sera pas si mal comme ça, le ou la personne qui viendra revivifier tout ça, faire tout ça à sa manière, bah très bien, changer tout, bah très bien. Je n'ai aucun, de ce côté-là, aucune idée sur la suite.
Donc, on vous offrira ce t-shirt avec Vivant dessus.
Allez, Vivant,
hein, on fait
bien.
Ça. Merci Jean-Paul Montanari pour ce moment de partage, d'avoir choisi de reprendre le dialogue là où on l'avait laissé il y a longtemps, d'avoir entrouvert un petit peu comme ça... Les choses les plus secrètes. Merci d'avoir partagé l'amour.
Je vous en prie, ma chère Monica.
Et à très bientôt.
À bientôt.